Vous écoutez
RMC. RMC, le ring des GG.
Trois balles de match.
Face à l'Argentin, Juan Manuel Cerundolo.
Il y a 5-1 dans cette dernière manche. Le service de Yannick Sinner qui va essayer de faire une amortie. Cerundolo qui va monter. C'est fini. Yannick Sinner est éliminé.
C'est affreux, c'est terrible ce que vient de vivre le tournoi.
Blessé dans le troisième set alors qu'il menait 2-7-0, 5-1. Yannick Sinner blessé, complètement à bout et battu par Cerundolo. Yannick Sinner est éliminé de Roland-Garros. C'est un coup de tonnerre.
30-15 donc Fonseca dans cette cinquième manche avec une première de sur le revers. Amorti va y aller, Djoko il va y aller, il sait que c'est important, il va se reprendre le lob. Oui, et le lob est gagnant parce que Novak n'a plus les jambes pour sauter. 40-15, événement peut-être historique dans quelques secondes. Djoko, au lendemain de l'élimination de Sinner, il va peut-être sauter à son tour. Attention. Ace, c'est pas vrai, 3 aces d'affilée. Joe Fonseca sort, Djokovic en 5-7, c'est énorme. Énorme victoire de Fonseca, d'un champion qui vient de naître sous nos yeux. Joe Fonseca qui sort Novak Djokovic en 5 manches. Énorme match, énorme émotion. Djokovic est tombé sur plus fort que lui et surtout plus jeune.
Quelle semaine on a vécu à Roland-Garros alors qu'Alcaraz et fils ont dû renoncer avant même le début du tournoi. La semaine écoulée sous une chaleur caniculaire a mis au tapis le grand favori Yannick Sinner autour de Djokovic hier de prendre la porte après une lutte homérique en 5-7 en 4h53 face au jeune brésilien Jean Fonseca de 20 ans, son cadet. Zverev est venu à bout de Quentin Alice en 4-7 hier soir et lui est toujours là, mais il y aura un vainqueur inédit en grand chelem à Roland-Garros et ça c'est déjà un énorme événement. Les GG, je vous pose la question sur le ring. Les favoris au tapis à Roland, est-ce génial ou frustrant? J'ai un frustrant, c'est Denis. Et j'ai trois géniaux. Pascal, Chris et Jérôme sur le compte X des Grandes Gueules du Sport, vous dites c'est génial à 64% donc de voir ce Roland-Garros actuellement avec les favoris au tapis. Vous venez au 32-16 évidemment et sur WhatsApp au 06 12 424 424. J'accueille Sarah Pitkowski, notre consultante tennis et Grandes Gueules du Sport en studio. Salut Sarah.
Mais j'ai oublié, je suis un peu fatiguée. Bonjour à tous, bonjour les garçons.
Salut Eric Salio, notre voix du tennis sur RMC.
Salut les grandes gueules.
Tiens, rapidement, juste génial ou frustrant sur Roland-Garros, Sarah?
Oh bah génial, mais alors, pas génial parce que les têtes de série sont au tapis. Génial parce que c'est totalement indécis.
Bah alors, c'est pas le débat. Alors moi, je réponds génial. Alors. Ouais.
Mais non, mais c'est notre débat.
Eric Salio,
t'es le roi. Mais non, mais s'il dit ça, c'est que c'est génial, évidemment.
Mais pas du tout.
Non.
Je suis d'accord avec Denis. Pour moi, c'est frustrant. Alors.
Eric Salio, génial ou frustrant?
Moi, j'adore toutes les formes de chaos. Donc c'est absolument génial.
Bon, attends, tiens, Denis, on va commencer par toi. Pourquoi t'as dit naturellement dit frustrant?
Quand Sinner est quand même le meilleur joueur au monde aujourd'hui, quand Djoko, qui est la légende du tennis, en sort du tournoi. Mais moi, c'est Djoko hier, je pleurais quand je le vois perdre, moi, hier soir, même si le match
c'était fabuleux. C'est la beauté du sport.
On répond par rapport à la suite. Oui. Par rapport à la suite, pour moi, c'est frustrant parce que j'aurais adoré voir Djoko aller en finale. Voir Djoko gagner. Et que là, ma frustration, elle est là. C'est
oui,
tout.
Mais parce que, tu poses ton supporterisme sur quelqu'un.
Pas que moi, parce que j'ai
quand tu vois le scénario, il perd à la régulière.
On s'en fout
il
du scénario.
Il perd contre une nouvelle génération. Oui, il y a un moment, il y a toujours des passages de témoins.
Le problème, il n'y a pas de problème.
C'est un amoureux du sport et il aime que les choses ne bougent pas.
Non, pas du tout. Sarah, le problème, quand même, il y a une donnée qui est à prendre en compte. C'est sûrement le dernier Roland-Garros de Djoko. On ne verra peut-être jamais Djoko à Roland. Et vous, ça vous fait rire.
C'est peut-être
la dernière saison, j'ai du sport. Et j'espère, mais il faut tourner, quoi. Il faut changer.
C'était le dernier de Gaël Monfils, aussi.
Djoko, d'ailleurs, la question lui a été posée hier. Eric, il a dit je ne sais pas si je reviendrai à Paris, mais je crois qu'il avait dit plus ou moins la même chose l'année dernière.
Moi, je ne sais pas. Là, il va avoir 40 ans, mais bon.
Non, mais moi, je trouve. C'est vrai que je pense qu'on a été mal habitués.
C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a eu les trois mêmes qui ont tout gagné. Sur 81 tournois du Grand Chelem, 66 sont revenus aux trois grands. Et après la fin de Federer, de Nadal et la baisse de rythme de Djokovic, on s'est dit peut-être on va avoir un peu plus de changement, on va avoir un peu plus de diversité. Et ben manque de bol, ils sont arrivés les deux et n'ont rien laissé, plus rien laissé à l'adversité. Du coup, quand il en manque un, on se dit ah là là, mais quelle catastrophe, comment on va faire? On va devoir découvrir d'autres joueurs. Denis, mais je vais pas pouvoir voir mon Djokovic, je vais pas pouvoir voir mon Nadal, ni mon Alcaraz. Mais c'est génial de pouvoir voir des Fonseca, des Jodard, des Kwame qui vont créer leur histoire, qui vont nous faire rentrer. Mais si tu dis le contraire, qui vont nous faire rentrer dans leur histoire. C'est bien de découvrir d'autres champions quand même, de pas tourner sur les cinq mêmes depuis 20 ans.
D'accord.
Sors de là, Denis, essaye d'ouvrir au monde.
Mais les cachets, ils sont où les cachets, Christophe? Parce que là, quand même, on avait décidé qu'ils sortiraient du studio à 9h30, mais bon, il est encore là.
Eric Salio, tu voulais rajouter un truc?
Non, mais je comprends un peu ce que veut dire Denis, parce que c'est vrai qu'il faut, il faut se frotter les yeux quand tu regardes le haut de tableau. Dans le haut de tableau, il y a quasiment plus personne. Hier, on faisait le podcast avec Sarah. On s'est rendu compte et on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Il reste plus que deux top 10 dans le tableau. Et incroyable. Des mecs qui ont fait des finales de Chelem, il y en a que trois. C'est Rude, c'est Berrettini et c'est Zverev. Mais les autres, mais au petit-déj ce matin, ils doivent se dire, c'est mon tour, c'est la chance de ma vie. Et c'est en ça que c'est génial. Et c'est en ça qu'on va voir des défaillances. Parce qu'il y a des mecs, ils vont pas tenir la pression, tu vois. Et peut-être même que Zverev ne tiendra pas la pression parce que là, il a une énorme pancarte dans le dos. Et moi, je suis curieux de savoir comment il va gérer tout ça. Et c'est pour ça que cette fin de tournoi va être absolument exceptionnelle. On aura peut-être une finale entre l'Andalous et je sais pas qui donc. Non, mais c'est vrai. L'Andalous contre Ronda. Allez hop, génial.
Encore les Espagnols. Non, mais Pascal, toi, il t'excite sur Roland Garros plus maintenant avec l'élimination des favoris?
Non, en fait, avec le recul et avec beaucoup de discernement, la nuit porte conseil. Parce que hier, j'étais en colère quand Djoko a perdu.
Et parce que tu le kiffes.
Parce que je suis supporter à fond. Ah, oui. Voilà. Donc, à partir de là, j'étais frustré. Mais très vite, j'ai dû reconnaître que le jeune Brésilien, bon, il a tenté sa chance. Il est mené 2-0. Franchement, il faut qu'il ait des sacrés coronets pour revenir. Et ça, on doit lui accorder ce mérite-là. Donc, en cela, bah, tout d'un coup, je bascule sur... je suis excité, j'ai envie de connaître le dénouement. J'espère franchement que Zverev, même si je suis pas un super supporter du garçon, j'espère qu'il va saisir sa chance.
C'est quoi, t'aimes bien l'histoire du maudit qui arrive enfin. Oui, je t'accroche à cette nouvelle histoire maintenant.
Mais ouais, je me dis, mais bon, je suis un loser, mais voilà pas que j'ai la chance un signe, là, mais me tend les bras.
Pascal, le problème, c'est Zverev. On parle de génial, de là à dire que c'est génial, non. Moi, les belles histoires, je les aime. Tout ce qui m'arrive va m'exciter à regarder, mais pas de dire que c'est génial.
Non, mais Denis, le temps passe pour nous. Tu le sais, et donc fatalement, il faut qu'on prenne ça avec beaucoup de discernement.
Oui.
On va laisser notre place petit à petit. C'est déjà fait presque. Ok. Donc c'est comme ça.
Mais moi j'ai pas envie de voir pareil, Djoko.
Mais l'être humain a besoin d'être rassuré. Donc il veut se rassurer à quelque chose qu'il connaît. On sait que le sport nous apporte des émotions. Donc en fait, on veut prendre les émotions, mais on veut qu'à la fin, on connaisse celui qui va gagner. En l'occurrence, Djokovic hier.
Oui, mais
on aurait aimé que ça finisse en 5-7, en apothéose et que le grand Djoko, eh bien, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire.
Ce qui est marrant, c'est que naturellement, dans le commentaire sur l'élimination de Sinner, tu dis c'est affreux pour Roland-Garros.
Bah, en fait, non, c'est affreux pour Roland-Garros parce qu'en fait, il perd pas sur le terrain.
Il
perd par le facteur X, qui est aujourd'hui sa plus grande faiblesse. C'est-à-dire aujourd'hui, quelque chose qu'il n'arrive pas à maîtriser, c'est la chaleur étouffante qui fait que son cerveau ne fonctionne plus. Son corps ne fonctionne plus. Et qu'il a essayé de jouer. Il faut savoir que Sinner a fait croire, et on est tous tombés dans le panneau. Il a fait croire qu'il s'était blessé. Ouais. Parce que sinon, il ne peut pas sortir du court pour se faire soigner. Donc en fait, il a essayé de jouer avec la règle, comme il a essayé de jouer avec la règle à l'Open d'Australie. Mais il y a une vraie défaillance.
Il faut lui faire un grand chelem au Groenland pour notre ami Sinner. En fait, il sera plus à l'aise. Juste pour les quelques stats concernant Zverev, qui aujourd'hui est quand même le favori numéro 1 en termes de classement. D'abord parce qu'il est 3e mondial, 3e tête de série. Et il a disputé 40 tournois du Grand Chelem depuis 2015. Aucune victoire.
Oui.
7 demi-finales disputées, Trois finales disputées, trois finales perdues face à Sinner et Alcaraz, c'est mais aussi tour, face là. À Dominic Thiem. C'est-à-dire que même en dehors de Sinner
oui,
et Alcaraz, il a eu la chance face à Thiem et il l'a laissé passer. Est-ce qu'il ne peut pas lui arriver, encore une fois, de passer à côté
j'ai hein. envie de te dire, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'effectivement, on ne sait pas comment il va réagir sous le coup de la pression parce qu'il a toujours été un outsider et là, il est en posture d'être le grand favori. Donc on ne sait pas comment il va gérer ça. Et puis il y a un autre facteur, c'est que on a vécu à plus de 40 dans une fournaise et qu'à partir de demain, ça va chuter.
Fait 16 degrés à Roland, donc en fait, mercredi.
Tout va se rééquilibrer en fait.
Sur Roland-Garros, c'est-il génial ou frustrant? Vous venez au 32-16, Jérôme. Plutôt génial pour toi.
Ouais, alors je vais faire très court parce que les grands plient face aux conditions extérieures. Et moi, j'ai trouvé génial qu'un mec comme Sinner, il plie parce qu'il a trop chaud.
Il est
parce que c'est des choses qu'on ne peut pas trop prévoir et parce qu'on a tous chez nous. Chez tous les grands athlètes et chez les grands champions comme ils sont, un point de faiblesse où tu peux, t'as beau être le plus fort, t'as beau être préparé, il y a un élément extérieur
pourtant,
que tu maîtrises pas.
Et pourtant, par rapport à d'autres sports,
j'aurais aimé on les met dans
des conditions de confort incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont le moins de petits bêtes de travers. Ils peuvent aller se faire soigner, ils peuvent revenir.
Tu sais, il y a beaucoup la fameuse phrase à Roland, quand il pleut, on tire la. Non, là, je peux te dire que jouer au tennis, faire du sport. Je fais un peu de sport en ce moment et je peux te dire que.
Ah ben, j'ai joué au tennis, moi, mardi dernier par 40, j'avais défaillé.
Exactement, c'est un exploit.
La comparaison de Chris qui joue.
Il faut même faire de la prévention qu'il n'y a que des grands champions qui peuvent jouer à ce niveau-là sur un court en ce moment. Parce que ce qu'ils font là, aujourd'hui, Sabalenka joue à midi et demi. C'est à midi et demi, je vous promets, dites à vos copains, venez, on va jouer au tennis. Ils vont vous dire non, on y va pas. Donc, c'est ça l'exploit. Et ce qui est génial, c'est que ces conditions extérieures-là permettent de trouver un suspense là où normalement, s'il fait 20 degrés, il n'y a pas de suspense.
Eric,
c'est ça que je trouve génial.
Eric, sur les conditions de la semaine notamment, est-ce que ça a vraiment eu une influence sur les résultats?
Bah évidemment, mais il y a eu une petite polémique avec Djokovic qui a pris l'exemple sur l'Open d'Australie où quand c'était trop chaud, on arrêtait tout. Mais là, l'indice qui est calculé à Paris, il est biaisé parce qu'il y a aucune humidité à Paris. Donc on aurait pu jouer peut-être même à 40 degrés qu'ils auraient laissé les joueurs sur le court. Donc peut-être qu'il faut revoir le règlement. On a plein de courts, on a des éclairages.
Ouais.
Des lumières, donc peut-être qu'effectivement, il y a un moment, il fallait faire une pause. Et puis,
sauf finir les matchs. Les vaincus font face à des vainqueurs. Il y a les mecs qui s'adaptent et d'autres pas. Il y en a qui coincent.
Je suis d'accord avec toi.
Et ça donne la chance à peut-être des mecs qui sont peut-être moins doués, mais qui supportent un peu la chaleur. Fait partie du sport.
Est-ce qu'un Tour de France avec Pogacar et Vingegaard qui craqueraient sous la chaleur,
c'est un Tour de France génial derrière. Pogacar a perdu le Tour de France face à Vingegaard sur une semaine de montagne sous la grosse chaleur. Vingegaard était mieux préparé, ça a payé.
Nibali a gagné un Tour de France avec Froome et Contador qui ont chuté.
Contador tombe, Froome tombe sur les pavés humides. Enfin, ça fait partie.
Nibali a gagné
du sport.
Personne met un astérisque sur la victoire de Nibali.
Exactement. C'est quand tout le monde est à 100%. Là, on met Alcaraz à part, il est blessé. Mais ils étaient à 100%. Il y a des choses extérieures.
Ils sont tous identiques sur la ligne de départ. C'est que les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Alors on peut dire oui, mais alors pourquoi? C'est les polémiques. Pourquoi Yannick Sinner n'a pas demandé à jouer en night session?
Oui, parce qu'en plus, c'est une demande de sa part de jouer
en tout cas, c'est son staff. Il faut savoir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a la direction du tournoi qui va faire son programme idéal. Son programme idéal, il est fait en fonction du public et en fonction des diffuseurs, du territoire et du continent sur lequel tu es. Parce qu'effectivement, quand tu as Outre-Atlantique, où on paye des millions et des millions, aujourd'hui, pourquoi Oji Aliassim est en night session? Parce qu'on a un Canadien et que Outre-Atlantique, il est intéressant pour les télés américaines et canadiennes. Donc en fait, ils font un programme idéal et après ils vont voir les staffs. Ils vont pas voir les joueurs directement, ils vont voir les staffs. Ils leur posent la question en disant est-ce que tu veux jouer en ouverture le dimanche? Est-ce que tu veux jouer à midi? Est-ce que ça te convient? Et le staff de Yannick Sinner a dit allons-y en premier, comme ça il aura plus de récup.
Il fait moins chaud effectivement. Enfin, on a vérifié les températures lors du match de Sinner. Il faisait moins chaud entre midi et 15h.
C'est pour ça que Sabalenka
joue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il s'est retrouvé piégé, Sinner. C'est qu'il a eu la première night session. Donc, il y a une sorte d'alternance pour les stars. Et il savait pertinemment que son deuxième tour, il le jouerait en day session. Et c'est là Sarah a raison, que le staff a dit bon, on est obligé d'y aller, alors mets-nous à midi, ça nous arrange.
Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'avec le niveau de professionnalisme du staff, notamment de Sénat, hein, qui est un staff quand même qui est pointu sur la préparation, ils savent pas que le mec il va planter quand il fait chaud, quoi.
Ouais, mais ils ont tenté quelque chose. Voilà,
oui, c'est une ouverture.
Tu
tentes pas, tu sais. Et tu prends jamais.
Jérôme, il mène 2-7-0, il a
2-7-0, 5-1. Il n'y a pas de match.
Si ça dure,
il n'y a pas de match. C'est-à-dire que même avec une petite défaillance à 5-1, je n'arrive pas à l'expliquer. Il a 3 breaks d'avance. Je veux dire, même si tu as un petit peu un coup de chaud, t'es à 5-1.
T'as déjà fait une installation une demi-heure avant, tout va bien.
Oui.
Eric, c'est le dernier jour de grand choix à Roland-Garros aujourd'hui, quel est le programme?
Bah, le programme, le grand moment, c'est Maurice Coimet, bien sûr, hein, qui jouera donc sur le cours Suzanne Lenglen en milieu d'après-midi contre le Chilien Tabilo. Et puis, on va surveiller aussi les deux favoris de cette partie de tableau, à savoir Félix Auger-Aliassime, donc qui jouera en night session. Puis encore des mecs qui peuvent y croire. Je pense à des Frances Tiafoe, l'Italien Coboli, et puis l'autre Frangin Cerundolo, qui doit se dire que moi, dans ma partie de tableau, je peux aller très très loin. Donc,
ouais. Pourquoi Coimet ne joue pas sur le central, par exemple?
Pareil, c'est peut-être quelque chose qui a été vu avec son staff. Le Châtrier, les particuliers, il y a beaucoup de recul. Peut-être que le Suzanne Lenglen lui convient. Après, il va falloir choisir entre le PSG
voilà, c'est
et
ça.
Les
c'est
quoi,
ça que je trouve dommage. Ce garçon qui est fan absolu du Paris Saint-Germain, la programmation de Roland-Garros et France Télévisions ont décidé de le mettre face au PSG. Donc, lui, il est frustré. Nous, on est frustré parce que moi j'aurais bien aimé voir à la fois le match de tennis et le match du PSG.
Moi j'ai regardé le match de tennis, arrête de nous raconter.
Ouais, ça peut commencer à 15h, Christophe. Ça peut commencer à 15h et tu verras les deux, t'inquiète pas.
Et puis on est au 21e siècle, hein, les doubles écrans ça existe.
Il y a de l'iPad et la télé,
la radio. Tu peux même mettre la radio.
La radio sur RMC, oui, parce que ça peut commencer à 15h. Il y a deux matchs féminins avant, ça peut aller vite, peut-être.
Pourquoi tu parles des pads, Christophe? J'ai pas compris.
Pourquoi je parle de quoi?
Des pads.
Tiens, les
iPad.
Dernier tour de table, juste très rapidement en un mot. Qui va gagner Roland Garros chez les hommes? Sarah.
Moi, je mets une pièce sur Zverev quand même.
Eric.
Tous au Zverev. Je pense qu'il va pas aller au bout. Je saurais pas dire qui va gagner, mais je pense qu'il ira pas au bout.
Allez, dis-moi un nom quand même.
Non, mais c'est une belle cote. Tous au Zverev.
Denis.
Zverev.
Jérôme. Fonseca.
Christophe.
Fonseca. Mais t'as le droit de faire pareil, Pascal.
Zverev.
Fonseca aussi, moi je dirais. Allez,
bah, s'il joue comme ça à chaque match,
Fonseca peut rappeler un certain Gustavo Kuerten.
Oui. On se retrouve à 11h30. Sarah et Eric pour parler de Maurice Coimet. Est-ce qu'il a tout déjà du sauveur du tennis français? Résultat du sondage pour vous. Roland Garros est génial à 64%.